Chapitre 34. Dans la tour du pouvoir, Nietzsche sursauta en entendant les cris. Tous les conseillers se levèrent et Maxime les imita. Thora, elle, resta confortablement assise, comme s'il fallait beaucoup plus que ça pour la tirer de sa léthargie. Le haut capitaine entra dans un concert de grincements d'acier et de cuir. Derrière lui, 6 soldats encadraient un guerrier à l'air redoutable, entièrement couvert d'une fine couche de poussière grise. Croulant sous le poids de ses chaînes, l'homme marchait très lentement. Avery approcha, l'air sinistre. Au premier coup d'œil, Nietzsche vit qu'il crevait de peur. Devant ce spectacle, la Sovréna daigna enfin se lever. Dès qu'elle reconnut la flamme stylisée sur la poitrine du prisonnier, Nietzsche comprit ce qui s'était passé avant les sorciers, constata-t-elle.
« Sovréna, sorcier en chef, » dit Avery. Un des soldats pétrifiés s'est réveillé. Quand c'est arrivé, votre fils et ses amis étaient dans la plaine. »
L'étrange guerrier parla avec un accent bizarre.
« Je m'appelle Ulrich. » Il secoua ses chaînes. « Qu'avez-vous fait à mes camarades et que voulez-vous me faire ?»
Pour une fois, Maxime oublia son éternelle nonchalance.
« Le sort s'est dissipé, c'est impossible. »«
Amos, »
coupa Thora.
« Qu'a-t-il fait? Est-il responsable de ça ?»
« Non, Sovréna, » répondit Avery. « Le phénomène semble s'être produit spontanément. Les jeunes gens nous ont simplement livré le soldat ennemi. »«
Et c'était bien joué, »
approuva Ivan. Poussé par la curiosité, André traversa la salle. Sans hésiter, malgré l'aspect menaçant du miraculé et les gardes qui l'entouraient, il tapota d'abord l'armure du guerrier, puis lui pinça la joue. Furieux, Ulrich secoua la tête puis claqua des dents comme s'il tentait de mordre le sorcier de chair. Très vif, celui-ci retira ses doigts à temps.
« La peau est encore dure et raide, mais ce n'est plus de la pierre. Sorcier en chef, ton sort s'est partiellement dissipé. Le partiellement est une bonne nouvelle, non ?»«
Excellente, oui, » grogna Maxime, en réalité très mécontent. « Espérons que ce soit un cas unique. »
Tout en pianotant sur la table, Quentin foudroya Avery du regard.
« Capitaine, vous nous amenez un ennemi en tenue de combat. Pourquoi ne l'avez-vous pas dépouillé de son équipement ?»«
Nous avons pris son bouclier, son casque et son épée, mais impossible de lui retirer le reste qui est encore collé à sa peau. »«
Laquelle est encore en partie minérale ?» dit André.
Il passa les doigts sur un bras nu d'Ulrich au-dessus de la bande de cuir hérissée de piques qui recouvrait son biceps.
« Très intéressant, ça. Sur un champ de bataille, il ne serait pas facile à tuer. »
Ulrich grimaça, mais le sorcier de chair ne sembla pas s'en apercevoir. Sans crier gare, Ivan tapa du poing sur la table.
« C'est un ennemi d'Ildakar. Ces soudards voulaient conquérir la ville, violer nos femmes et torturer nos enfants. »
Damon se tourna vers la Sovréna, un rictus mauvais sur les lèvres.
« J'ai toujours pensé que ton fils et ses ennemis ne devaient pas aller démolir des statues. Aujourd'hui, je change d'avis. Dommage qu'il ne l'ait pas fait plus souvent. Il faut envoyer des équipes réduire en poudre nos ennemis. »«
Un travail de titan, »
marmonna Quentin.
« Il y en a des centaines de milliers. »
Toujours furieux, Ivan se leva, les bras pliés pour faire saillir ses énormes muscles.
« Transformer cette armée en pierre fut une grande victoire. Mais depuis, tous ceux qui ont le sens de la justice éprouvent une légitime frustration. Et voilà qu'un des envahisseurs nous tombe entre les mains. »
Il foudroya du regard le pauvre Ulrich, à peine capable de tenir debout sous sa montagne de chaînes.
« Jetons cet homme dans l'arène et forçons-le à combattre. » « La cité entière se réjouira de le voir taillé en pièces. »
Nietzsche n'y tint plus.
« Interrogez-le d'abord, pour savoir ce qu'il connaît des plans d'Outros. C'est une occasion en or. »
Surpris par cette interruption, tous les autres la regardèrent.
« Oui, une occasion en or pour les historiens, » ajouta Nathan, « et pour améliorer les défenses de la ville. »«
Du temps perdu, »
lâcha Quentin.
« Après des siècles, quel intérêt ça aurait? L'empereur Kourgan est mort depuis longtemps et son armée est pétrifiée. »«
Ce type est un simple fantassin, » renchérit Damon. « Il ne sait rien. »
D'expérience, Nietzsche savait que les fantassins remarquaient souvent des détails qui échappaient à des gens plus huppés. Au temps de Jagang, ce soldat aurait passé de longues semaines entre les mains de spécialistes de l'interrogatoire et ça n'aurait pas été le meilleur moment de sa vie. Aujourd'hui, le conseil avait besoin de comprendre pourquoi le sort s'était dissipé et il avait sous la main une formidable source d'informations. Négliger tout ça semblait d'une bêtise crasse.
« Ildakar est une ville pacifique, » dit Maxime. « Nous ne sommes guère versés dans l'art de l'interrogatoire ou de la torture. Ce type sera très bien dans l'arène. »
Toujours désorienté, Ulrich agita pourtant furieusement ses chaînes.
« J'affronterai tous ceux que vous m'opposerez. Pour la gloire de Croc d'Acier, je me battrai comme un lion. »
« Un beau spectacle en perspective, non ?»
fit André.
« Je vote pour. »
« Si le sort de pétrification faiblit, » dit Maxime, « nous avons peut-être un gros problème. Nous devons faire en sorte que la défaillance ne se reproduise pas. »
Il se tourna vers sa femme.
« En ce qui concerne cet homme, je vote pour la reine. Dresseur en chef, as-tu des adversaires intéressants à lui opposer ?»«
Bien entendu !»
répondit Ivan, les yeux plissés comme s'il imaginait déjà la scène.
« C'est adopté, donc, » conclut Thora. « Avertissez les citoyens qu'ils verront un spectacle comme on ne leur en a jamais proposé. »
Alors qu'un soleil de plomb cognait sur la ville, les marchands, les négociants, les jardiniers, les tailleurs et les autres artisans abandonnèrent leurs occupations pour se précipiter dans l'arène et prendre les gradins d'assaut. Des siècles plus tôt, le général Outros avait menacé leur ville et son armée restait un objet de haine et de mépris. En revenant à la vie, Ulrich donnait l'occasion à Ildakar de se venger, ou plutôt de faire enfin triompher la justice. Bref, tous les citadins désiraient voir crever le fantassin de Kurgan. Depuis toujours, les combats à mort faisaient partie de la culture d'Ildakar, un moyen pour la population d'extérioriser sa frustration et sa colère. Alors qu'elle sentait la tension monter chez les spectateurs du massacre à venir, Nietzsche se demanda si le Douma ne s'arrangeait pas pour fournir un exutoire au mécontentement populaire. Tandis que la foule s'installait sur les gradins, Nietzsche et Nathan prirent place dans une des loges d'honneur. Ici, les couleurs vives et les tissus nobles dominaient, frappant contraste avec les tenues ternes et fatiguées de la plèbe. Grâce à Maxime, Nietzsche avait de nouveau droit à une des meilleures places. Un peu plus loin, Avri veillait jalousement sur Thora, plus attentif à sa personne qu'à sa sécurité, semblait-il. Nathan engagea la conversation avec André, mais le sorcier de chair, fasciné par le guerrier réanimé, ne paraissait plus très motivé par son affaire de don.
« Nous y reviendrons, mon ami, rien ne presse. »
Comme de juste, les Norukai n'auraient pour rien au monde raté le spectacle. Avec ses compagnons, Kor sema la panique dans la partie la plus basse des gradins où se massaient les ouvriers et les esclaves. Sans complexe, les esclavagistes s'arrangèrent pour qu'il y ait assez de place libre là où ils en voulaient. Thora les avait invités dans sa loge, mais Kor avait refusé.
« Je veux voir de près la sueur, sentir l'odeur du sang et entendre les cris de douleur. Nous allons peut-être découvrir un concept qui plaira au roi calvaire. C'est le genre de distraction dont il est friand. »
Très mal à l'aise, Bannon marmonnait tout en gagnant sa place près de Nietzsche et de Nathan.
« Douce mère la mère, » dit-il à ses amis, « c'est une honte. Quand il s'est réveillé, désorienté, Ulrich m'a demandé de l'aide. Amos l'a attiré en ville avec des mensonges et des gardes lui ont sauté sur le paletot. À présent, il va se faire tuer. »
« Il est l'ennemi de ces gens, » rappela Nietzsche, « membre d'une armée qui aurait volontiers rasé Ildakar. »
« Oui, il y a 5000 ans de ça, » s'écria Bannon. « Aujourd'hui, Ulrich ne menace personne. »
« Tu as peut-être raison, fiston, » dit Nathan pensif. Mais depuis tout ce temps, ces gens pensent avec rage aux visées expansionnistes de Kurgan. Pendant longtemps, ils ont seulement pu regarder des soldats pétrifiés. Enfin, l'heure de la vengeance a sonné.
« Et ce n'est pas juste !»
explosa Bannon.
« Exact, » approuva Nietzsche. « Si c'était la seule injustice à Ildakar. »
Des hommes en tuniques sans manches frappèrent sur plusieurs gongs, réduisant la foule au silence. Depuis son perchoir, le héros chauve annonça de sa voix amplifiée
« Aujourd'hui, Ildakar va assister à une exécution. Pas facile, autant vous prévenir. »
La foule murmura, mais l'homme tonna
« Un ennemi, même venu du passé, mérite un châtiment. Pour celui-ci, ce sera mourir dans l'arène. »
Les spectateurs se déchaînèrent, huant le guerrier ennemi. Dans leur coin, Maxime semblait s'amuser franchement, alors que Thora, plus politique, paraissait ravie de voir la vindicte populaire se focaliser sur un bouc émissaire. Des spectateurs s'étant levés pour mieux voir, ceux qui étaient derrière firent de même, déclenchant une sorte d'ondulation marine sur les gradins. Les Norokai, eux, tendirent le coup. Quand un type se leva, obstruant le champ de vision de Dar, l'esclavagiste le poussa simplement en avant. S'écrasant au fond de la fosse, le malheureux se releva tant bien que mal, regarda autour de lui, vit qu'une des portes bardées de fer était ouverte et tenta d'escalader la paroi. D'extrême justesse, des amis à lui le hissèrent en sécurité, juste avant que l'antique guerrier fasse son entrée dans la zone de combat. Les huées reprirent de plus belle. Dans sa lourde armure encore pétrifiée par endroits, Ulrich se déplaçait lentement, comme s'il était prisonnier d'une gangue de boue. Pour le combat, on lui avait rendu son épée à la lame incurvée. Toujours désorienté, il balaya la foule du regard, s'attirant des cris de haine. Arrivé au milieu de la fosse, il se plaça face à la loge des dirigeants.
« Que voulez-vous de moi ?»«
Que tu crèves, imbécile !»
cria Maxime avant de ricaner méchamment. Assise près de Nathan, Elsa avait posé les mains bien à plat sur sa jupe rouge, l'image même de la dignité.
« Où est Ivan ?»
lui demanda l'ancien prophète.
« J'aurais parié qu'il regarderait le combat.
Il est dans les tunnels de l'arène où il s'occupera des bêtes. »
Se souvenant d'un certain ours, Nietzsche eut un frisson glacé.
« Les bêtes ?»
Sur le sable brûlant, Ulrich se retourna quand il entendit s'ouvrir une porte. Voyant trois panthères en déboulé, Nietzsche se raidit d'instinct. Très semblable à Mra, la fourrure également couverte de runes de protection, les fauves attaquèrent avec une parfaite coordination, la queue zébranlaire et les babines retroussées dévoilant des crocs mortels. Bien campé sur ses jambes, Ulrich leva son arme, prêt à encaisser l'assaut. La troca se déploya. Une attaque frontale et deux latérales menées sans précipitation, histoire d'avoir le temps d'étudier l'adversaire. Ulrich pivota sur lui-même pour tenter de voir les trois panthères en même temps. Comme si c'était un jeu, les fauves tournèrent en rond à l'affût de la première ouverture.
« Je connais Mra, » soupira Nathan, « mais je n'avais jamais vu une troca en pleine action. C'est une formation de ce genre qui vous a attaqué dans le canyon, Bannon, la pauvre petite Chardon et toi ?»
Le jeune escrimeur répondit à la place de la magicienne.
« Oui, et nous avons dû faire face. Nous avons tué les sœurs de Mra, mais elles, je les guéris. Sa troca s'était sûrement évadée de la ménagerie.
Comme l'ours,
ajouta Bannon.
Quelqu'un a peut-être libéré tous ces fauves,
souffla Nietzsche. Pour semer le trouble en ville, Masque Miroir et ses partisans ne reculaient devant rien. Dans l'arène, la panthère de face bondit sur l'antique guerrier. Levant sa lame, Ulrich frappa, mais le fauve esquiva et récolta une égratignure. Du sang, certes, mais pas de véritables dégâts. De toute façon, l'attaque était une diversion. Percuté sur le flanc par une autre panthère, Ulrich perdit l'équilibre. Tandis qu'il luttait pour ne pas tomber, le fauve lui planta ses griffes dans un bras. Sur un être humain normal, un coup pareil aurait fait des ravages. Là, des sillons se creusèrent sur la peau encore grisâtre du revenant et se refermèrent presque aussitôt.
« Il est encore en partie minéral, » souffla Nathan fasciné.
« Oui. » Il n'est pas totalement libéré du sort,
confirma Bannon. Aussi surpris de son invulnérabilité que la foule, Ulrich baissa les yeux sur sa blessure. De plus en plus furieux, il leva son épée puis abattit le pommeau sur le crâne de la première panthère. Hyperpuissant, le coup se répercuta dans toute l'arène et la foule applaudit. À l'évidence, elle avait envie que ça dure un peu. Renversé par la troisième panthère, Ulrich tomba face contre terre. Un des fauves lui sauta dessus, s'acharnant sur les parties en cuir de son armure. Sans le sort de pétrification, le dos du guerrier aurait été labouré. Une autre panthère mordit le poignet du revenant, tentant de déchiqueter son bras armé. D'un coup de poing, Ulrich repoussa son assaillante qui recula en couinant de douleur. Pendant que la troca se réorganisait, le guerrier se releva. Quand une des bêtes bondit, il frappa avec son épée, visant le ventre.
le coup fit couler le sang, ce qui doucha les ardeurs de l'animal. Loin d'être indemne, Ulrich avait des sillons sur la nuque et les bras, mais il luttait comme s'il se pensait invincible. Échaudés, les panthères choisirent de rester hors de portée de ses coups.
« Un guerrier de ce genre est dur à tuer !»
souffla Nathan.
« Tu imagines toute une armée dans cet état ?»
Voyant que les panthères se dérobaient, la foule grogna de mécontentement. La troca ne renonçait pas, mais elle luttait à distance, ce qui semblait revenir au même pour l'assistance. Nietzsche eut le cœur serré pour ces pauvres félins. Sans Ivan, ils seraient restés des chasseurs, ne devenant jamais des machines à tuer. Au bout d'un moment, un homme entra dans la fosse par la porte d'où avaient jailli les fauves. En simple gilet de fourrure, c'était Ivan, le chef dresseur. Armé d'un énorme marteau de guerre, il avança sans hâte vers le centre de l'arène. Ulrich pivota vers ce nouvel adversaire. Les panthères continuèrent à tourner en rond, sûrement, mais il n'y avait plus rien à craindre d'elles après qu'elles eurent récolté des blessures aussi bien physiques que mentales. Ivan lâcha un grognement animal qui n'aurait rien eu à envier au rugissement d'un lion. Pour se défendre, Ulrich leva son épée, mais la lame parut soudain bien petite face à un gigantesque marteau. Quand Ivan frappa, le coup arracha son arme au guerrier, lui brisant le poignet et l'avant-bras. Sonné, Ulrich baissa les yeux sur le mélange de chair et de pierre cassée en deux dont sourdait un sang anormalement épais. Reprenant ses esprits, il lança un défi incompréhensible au dresseur en chef, mais Ivan, avide de victoire, en avait assez de la compétition. Tout en chargeant, il leva son marteau de guerre, alla chercher de l'élan le plus loin possible en arrière, puis mit toute sa force dans son coup, qu'il déclencha à l'exact moment où il arrivait à portée de sa cible. L'âme percuta la poitrine d'Ulrich, qui vacilla comme si une montagne venait de le percuter. Puis son torse explosa, ses côtes encore à moitié pétrifiées éclatant pour révéler la masse sombre de ses poumons et de son cœur. Revenu d'un néant long de 15 siècles, l'antique guerrier s'écroula, autant déchiqueté que réduit en poudre par le coup. La foule applaudit. Mais Nietzsche capta une sorte de gêne dans ses vivas. Sans prendre le temps de triompher, Ivan approcha de sa victime, leva de nouveau le marteau et l'abattit, pulvérisant le crâne du vaincu. Les panthères, sous influence magique, tournaient toujours en rond malgré leurs blessures. Se détournant d'Ulrich, Ivan tendit une main et invoqua son don. Les panthères refusèrent d'abord de se soumettre, et l'une d'elles esquissa même une attaque contre son dresseur. Concentré comme jamais, Ivan plia les doigts puis déchaîna sa magie. Poussés par une force invisible, les trois fauves sortirent de la fosse et s'enfoncèrent dans un tunnel obscur.
« Un magnifique combat, non ?» jubila André.
« Dommage que Ray n'ait pas pu voir ça, » regretta Elsa.
« S'il ne rentre pas bientôt, » intervint Maxime, « le Douma devra se trouver un nouveau membre. »
Une perspective qui ne semblait pas le désespérer.
« Ulrich demandait simplement de l'aide, » dit Bannon, rouge de colère. « Maintenant, nous ne saurons jamais pourquoi il s'est réveillé, ni ce qui explique la défaillance du sort. »
Dans les gradins, la foule se dirigeait déjà vers les sorties. La fête terminée. Personne ne semblait vraiment satisfait.
« Et ce guerrier, » rappela Nietzsche, « n'était qu'un homme parmi des centaines de milliers. »